Et couture dans le mid.
En vacances.
Radio X.
Chronique politique avec Rodolphe Osny.
Eh ben, tout près de 10h40, dans le couture dans le mid, ici à Choix avec Nick Cloutier et Louis Gauvin. Tu sais, l'été, habituellement, c'est plus tranquille dans le monde de la politique. Les politiciens sont en vacances, tout ça. Mais là, on est pas mal déjà en campagne électorale au niveau provincial. Ça brasse du côté fédéral aussi. Donc, il ne prend pas de vacances. Il est au bout du fil. Rodolphe Osny, comment ça va?
Bonjour, Nick. Bonjour, Québec. Écoute, je vais bien. Et vous?
Ça va très bien. On est dans le mode estival ici, puis c'est le fun, tu sais, le Festival d'été de Québec. D'ailleurs, t'es passé tout près de Québec en fin de semaine, Rodolphe?
Oui, alors ce samedi, j'étais à Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage, dans l'Aubinière. Je suis allé voir un député conservateur que vous connaissez bien, Jacques Gourde.
Ah oui, M. Gourde.
Ben oui, parce que en fait, il y avait un événement pour souligner et rendre hommage à Jacques Gourde, parce que ça fait 20 ans qu'il est en politique fédérale, qu'il est député conservateur. On se souvient qu'il avait été élu en 2006. Alors, c'était très intéressant. D'ailleurs, on a eu la visite de Pierre Poilievre qui est venu. Je pense qu'après, il est parti. D'ailleurs, il était au Festival d'été de Québec samedi soir, après cet événement à Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que les gens oublient, mais M. Gourde est le doyen des députés conservateurs au Québec. Ça faisait partie de la première cuvée
oui.
de conservateurs qui ont été élus en 2006, parce qu'avant 2006, il n'y avait pas de députés conservateurs au Québec. D'ailleurs, c'est intéressant de rappeler tout ça, parce que c'est quelqu'un qui, en 2005, le 18 juin 2005, un monsieur qui s'appelait Stephen Harper, qui était allé à la Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage, rencontrer un futur candidat qui s'appelait Jacques Gourde, qui était un ancien adéquiste, un ancien organisateur adéquiste. Et quelques mois plus tard, ça a été le début des conservateurs. On se souvient que Jacques Gourde s'est fait élire en même temps, par exemple, qu'un Stephen Blaney, qui est maintenant maire de Lévis, d'ailleurs, est venu faire son tour. On se souvient, par exemple, de Christian Pazzi, on se souvient de Maxime Bernier, qui a décidé d'aller en politique, mais avec un autre parti par la suite. Donc, en fait, de la cuvée de 2006, il ne reste que Jacques Gourde. Donc, c'est super intéressant d'aller comme ça célébrer avec lui. Jacques Gourde, qui était...
À l'époque, Rodolphe, est-ce que tu étais avec Stephen Harper et que tu avais rencontré M. Gourde?
Non, pas... Moi, j'ai commencé à peu près en 2009. Donc, j'ai commencé en 2009 à être avec les conservateurs. Jacques Gourde était déjà député. Mais Jacques Gourde est quand même quelqu'un de très intéressant parce que Jacques Gourde, oui, est député depuis 20 ans, mais il reste un agriculteur, il reste un éleveur. D'ailleurs, durant sa cérémonie hier, samedi, durant sa cérémonie d'hommage, il a enlevé ses lunettes, puis on voyait qu'il avait comme les yeux blancs, il était tout bronzé. C'est qu'il avait fait les foins le jour avant, puis il s'était fait griller au soleil. Donc, c'est intéressant parce que Jacques Gourde reste comme ça, ce député qui est à la fois député, mais qui reste agriculteur, qui élève des agneaux. Alors, c'est pour ça que c'était super intéressant de, comme ça, lui rendre hommage, de se souvenir de ses 20 ans en politique. Et oui, bien sûr, on le connaît à cause d'Infomad et de toutes ses sorties sur C'est un scandale.
Mais ses envolées aussi au Parlement d'Ottawa. Est-ce que à ses débuts, te souviens-tu s'il était aussi, s'il y avait des envolées aussi dynamiques?
Non. Je crois que c'est venu avec le temps. C'est surtout venu à peu près, je pense, durant la pandémie qui a vraiment commencé à sortir et à dire que c'était un scandale, cette fameuse phrase. Oui. C'est là qu'on a beaucoup entendu Jacques Gourde. Il faut savoir aussi que Jacques Gourde a été très important parce qu'à l'époque, je te parle de 2006, mais le problème, c'est qu'en 2011, il restait plus que 6 députés conservateurs, dont Jacques Gourde. Les 5 autres étaient ministres. On se souvient que Jean-Pierre Blackburn, Lawrence Cannon, etc. Donc, on peut dire que notre ami Jacques Gourde a beaucoup parcouru le Québec parce qu'il n'y avait pas beaucoup de députés conservateurs à l'époque. Donc, c'était très intéressant qu'il nous rappelle tout ça, tous ces souvenirs de politique. Et surtout, il faut le souligner, Jacques Gourde a eu des problèmes de santé, il a eu un cancer, il a fait la dernière campagne électorale en faisant comme ça des traitements de cancer. Donc, c'était aussi un moment comme ça pour lui rendre hommage. Tout le caucus était là, dont aussi, par exemple, Luc Berthold. Et on sait aussi ce qui est arrivé à Luc Berthold récemment, qui lui aussi a eu un cancer et aussi a perdu son fils.
Un autre qui est là depuis quand même longtemps, depuis la période de la DQ, qui a fait une vingtaine d'années aussi, là, 7 mandats, si ma mémoire est bonne, et qui a annoncé son départ hier, c'est François Bonnardel. J'imagine que M. Bonnardel voyait ce qui se passait. T'sais, il disait être en réflexion concernant son avenir politique. Peut-être qu'en voyant ce qui attendait la CAQ aux prochaines, ce qui attend la CAQ, pardon, aux prochaines élections, a pesé dans la balance. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rodolphe.
Oui, pour l'instant, il n'y a pas encore eu cette annonce officielle de M. Bonnardel, mais les informations circulent à ce qu'il va annoncer cette semaine son départ. Il y aurait peut-être même une annonce qui va le succéder dans la circonscription de Granby. Puis oui, c'est une grosse page qui se tourne pour François Bonnardel pour plusieurs éléments. François Bonnardel, tout d'abord, est un député très apprécié dans sa circonscription de Granby.
Il aurait regagné selon les projections que je regardais hier, là.
Oui. C'est pour ça. On sait qu'actuellement, quand on regarde la CAQ, on se dit, bon, est-ce qu'il y a des sièges qui sont peut-être plus sûrs que d'autres? C'est sûr que le siège de M. Bonnardel faisait partie et dans la liste ou la catégorie de ceux qui se feraient élire. Donc, est-ce que M. Bonnardel a dit, bon, ben, j'ai assez fait puis j'ai pas envie de siéger dans l'opposition? On peut bien évidemment faire cette conclusion. On va bien sûr attendre son annonce, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un tout petit peu le visage ou les anciens adéquistes ou le virage plus à droite qu'on s'attend, en fait, de la CAQ. Puis avec le départ de François Bonnardel, il y a comme cette caution morale aussi qui quitte pour, en tout cas, la CAQ. Si on n'arrête pas de parler, d'un côté, il y a l'aile qu'on appelle plus identitaire, avec un Simon Jolin Barrette, par exemple, qui a beaucoup fait pour la laïcité, pour la Constitution. Et d'un autre côté, il y avait cette caution plus à droite avec M. Bonnardel, qui venait de l'ADQ. Maintenant, on se demande qu'est-ce qui va se passer avec cette partie de coalition Avenir Québec et Mme Fréchette. Elle parle de renouveau, mais on se pose la question, surtout qu'on a vu, puis ça, il faut le souligner, la semaine dernière, par exemple, un organisateur de la CAQ de Bernard Drinville, qui, lui, a fait le saut vers le Parti conservateur du Québec. Donc, on se pose la question, est-ce que ce départ comme ça de M. Bonnardel va faire réfléchir certains qui, peut-être, vont aller retourner ou aller au Parti conservateur du Québec, ou peut-être s'ils sont plus souverainistes vers le Parti québécois.
Oui, parce que, par exemple, dans ma circonscription sur la Rive-Sud, Martine Biron, on ne sait pas trop ce qui va se passer non plus, là.
Oui, exactement. Puis c'est ça qui est très, très difficile pour Mme Fréchette. Et je comprends pas, ça veut dire, je comprends que M. Bonnardel est un député d'expérience et tout ça, mais ça veut dire de faire ses annonces, de continuer à avoir ses annonces ou cette incertitude à savoir, est-ce que, comme tu viens de le dire, on n'a toujours pas de réponse concernant Martine Biron, on ne sait pas non plus Nathalie Roy. Puis quand on regarde les statistiques, là, je pense qu'on est rendu à 45-46 départs, ou en tout cas de députés de la coalition Avenir Québec qui ont été élus en 2022, qui ont déjà annoncé qu'ils ne seront pas sur les rangs pour l'élection du 5 octobre. Disons que ce chiffre commence à faire mal parce que je pense qu'on a atteint le fameux 50% de députés candidats qui ont dit qu'ils ne se représenteraient pas.
Ouais, ce matin, on avait la discussion dans Montréal Live, Rodolphe, concernant... Parce que là, Christine Fréchette semblait déjà vouloir préparer une annonce prochainement, dans les prochains jours, même pour la fin de semaine prochaine, concernant Granby. Donc, on se disait, est-ce que il y a une tendance à la CAQ qui pousse les députés d'expérience un peu vers la retraite pour essayer de présenter une équipe plus jeune, pour pouvoir se détacher vraiment de l'ère François Legault?
Bien, c'est sûr que quand tu regardes là juste ces derniers mois, t'as eu Jean Boulet qui a annoncé son départ. Ensuite, on a vu Mme Fréchette qui, avec le départ de Jean Boulet, a dit « Bon, ben je vais changer de circonscription de Sanguinet pour aller à Trois-Rivières ». Ensuite, on a eu l'annonce qu'on ne s'attendait pas non plus de Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, qui a annoncé que lui ne se représenterait plus. Là, maintenant, on a M. Bonnardel qui va annoncer dans les prochains jours qu'il ne va plus. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec Martine Biron. Donc, c'est sûr que pour Mme Fréchette, ça doit être difficile pour surtout trouver des candidats, des gens qui sont connus, qui ont une certaine expérience, puis dire, écoutez, on est prêt ou on serait prêt à former un autre gouvernement. C'est un peu difficile. Mmh. Pour l'instant, je sais qu'ils font des candidatures. Je sais que pour l'instant, ils étaient en retard concernant certaines candidatures. Là, ils ont rattrapé le coup. Mais encore une fois, tu te dis, bon, ben, c'est difficile pour la CAQ, puis ça fait qu'on parle toujours de ses départs et on n'est pas en train de beaucoup parler des arrivées ou des nouvelles candidatures.
La seule rumeur qu'on a vue... J'ai vu Karianne Bourassa dire qu'elle se représentait là, dans sa circonscription. Puis il y a une rumeur ici dans Charlebourg pour Marie-Josée Morancy, qui était la présidente de la Chambre de commerce de Lévis. Mais sinon, Mme Fréchette se promène, donne des poignées de main. Mais pour ce qui est des annonces, à moins que je me trompe, Rodolphe, je pense que le Parti conservateur du Québec est en avance, là.
Bien, c'est sûr que la région, votre région de Québec, en tout cas, ça va être une chaude lutte avec à la fois le Parti conservateur qui, pour l'instant, si on regarde les sondages, a quand même une certaine lancée.
Oui.
Le Parti québécois, faut pas l'oublier, qui est quand même très important, puis qui commence aussi à faire. Tandis que pour l'instant, le Parti québécois était un peu plus sous le radar. On sait que Paul Saint-Pierre Plamondon est en vacances, puis
ouais,
honnêtement, il
ça.
Le fait bien.
On le
il
voit
le
pas.
Fait bien. Oui, non, ben c'est ça. Il fait bien d'être. Honnêtement, des fois, ça fait du bien aussi.
Il faut oublier un peu.
Oui, de se faire oublier aussi, de recharger les batteries, puis d'être prêt, parce que là, pour l'instant, tu te dis, bon, ben c'est bien beau de sortir comme ça, puis de faire tous les festivals, puis sortir, mais il faudrait pas qu'il soit brûlé quand arrive le moment clé qui va être fin août, début septembre. Donc, je pense que c'est ça qui a un tout petit peu la dynamique. Moi, la question que je me pose, Nick,
oui.
Puis je regarde, là, Charles Milliard. Charles Milliard, puis le Parti libéral du
Québec.
Qu'est-ce
que fait le Parti libéral, effectivement?
Parce que, écoute, moi, je suis un ancien stratège politique.
Oui.
Puis, normalement, quand tu as un nouveau chef, ce que les stratèges politiques font, c'est qu'ils essayent au maximum de définir puis de dire qui est ton candidat au risque que les autres partis le fassent avant toi. Puis moi, je suis très surpris qu'actuellement, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas eu de stratégie, même d'argent qui a été mis du point de vue publicitaire pour faire connaître Charles Milliard. Actuellement, il y a une question fondamentale en politique, quand tu es en politique, que tu dois réussir à répondre, puis que les électeurs doivent savoir, c'est pourquoi tu es en politique et qu'est-ce que tu veux faire. Et actuellement, j'ai comme l'impression que pour Charles Milliard, ça continue à être un point d'interrogation et qu'ils n'ont pas mis encore en avant ce narratif qu'on appelle à savoir pourquoi Charles Milliard est en politique et qu'est-ce qu'il voudrait faire comme premier ministre. Pour l'instant, tu sais, oui, il a été beaucoup de fois sur la défensive, sur la clause dérogatoire, sur le français, etc.
Oui.
Mais pour le reste, je suis étonné que ça va faire quoi? Quelques mois que maintenant Charles Milliard est en poste comme chef du Parti libéral du Québec et j'ai pas l'impression qu'ils ont réussi à développer ce narratif. Je me suis dit, mais ils vont le faire quand il va arriver la campagne électorale?
C'est un peu trop
tard.
Tes
adversaires auront le temps de te définir avant que toi, tu puisses te définir.
En effet, parce que tu as raison, on n'a pas l'impression qu'il y a un nouveau plan pour le Parti libéral du Québec. Pas nécessairement d'annonce de candidat non plus, à part le comeback de Mme Bourdon. Là.
Oui, non, c'est sûr. Puis oui, il va avoir, tu sais, il y a déjà eu un candidat qui s'est déjà retiré dans Québec.
Oui.
Celui qu'on avait vu comme un ministre de la Justice. Donc déjà, ça a fait réfléchir. Bon, il y a Mme Bourdon qui a fait cette candidature. Bon, ben ça donne quand même en termes qu'ils ont de l'expérience pour quelqu'un qui connaît le réseau de la santé. Mais de façon générale, n'oublie pas, Nick, une campagne électorale, je sais qu'on vote pour son député, mais on vote surtout pour un chef. Puis
oui.
Pour l'instant, l'image du chef, en tout cas, elle est toute à construire, elle est toute à bâtir. Parce que, écoute, j'ai entendu, oui, quelques annonces, c'est-à-dire il veut baisser un peu les taxes sur les PME, il veut faire un sommet sur l'éducation. Oui, mais moi, c'est parce que je suis analyste politique et je le suis à tous les jours. J'ai pas l'impression que si on faisait un vox pop à Québec, dans une rue à Québec, qu'on demandait « Hey, vous pensez quoi de Charles Milliard? » Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'arriveraient pas à répondre à cette question.
Parlons un peu du gouvernement fédéral et de Mark Carney, qui, lorsque a été élu, du moins quand il faisait sa campagne pour être élu premier ministre du Canada, on disait de lui qu'il était un fin négociateur, banquier qui était capable de négocier avec Donald Trump. Et là, on regarde le deal, en bon français, du côté du pont Gordie Howe, qui devrait ouvrir là, d'ici quelques jours. Je pense que le Canada perd des plumes à ce niveau-là. Là.
Ben, c'est qu'on commence à sérieusement se poser des questions, parce que si on retourne un tout petit peu en arrière, on se souvient que le Canada voulait faire ce qu'on appelle la taxe numérique
oui.
sur les géants du web. Et ensuite, ben, finalement, elle a été abolie. Pourquoi? Parce que selon M. Carney, ben, ça nous permettait d'avoir que les Américains seraient à la table des négociations. Finalement, ben, c'est pas arrivé. On a eu le CRTC qui a aussi demandé que les géants du web payent une contribution. On a vu le gouvernement dire au CRTC, non, finalement, retournez, on retourne votre copie, on va pas aller dans cette direction-là, ça peut nuire aux négociations. Ensuite, finalement, il y a ce pont Gordie Howe, qui est très important parce qu'il est entre Détroit et Windsor, un pont qui a été payé par le Canada, plus de 6 milliards de dollars. Le Canada a même payé les infrastructures américaines, douanières, etc., pour s'assurer que ce pont se fasse. Puis là, on apprend que finalement, ben, il y a eu une renégociation, puis que l'argent qui devait venir au Canada parce que le Canada a payé, ben, maintenant va être partagé avec les États-Unis, etc. Donc on se dit, attends un instant, là. D'un côté, on a le Mexique Et on sait que le Mexique s'assoit avec les États-Unis, qu'il y a des rencontres, qu'il y a eu un début de négociation. Puis quand vient le Canada, bien, on dirait qu'on a une stratégie où on fait des concessions et qu'on n'a rien en retour. On n'est pas encore capable de se dire « Hey, il se passe quoi avec les négociations? Est-ce que ces négociations ont continué? » Puis on a quand même l'impression qu'il se passe des choses entre les États-Unis et le Mexique, puis que le Canada, on dirait, n'est pas actuellement à la table. Donc, c'est pour ça que je me pose la question en me disant « C'est bien beau de se dire, bon, ben OK, les Américains, à la fin, il faut que le pont ouvre, et je suis d'accord avec ça. Oui, il faut que le pont ouvre, mais est-ce qu'on a encore fait concession sur concession? »
Ben,
disons qu'on se pose la question.
Ouais. Je pense que oui. Et en coulisses, ce qu'on entend, je ne sais pas si c'est seulement une rumeur ou... paraît que ce qui achoppe beaucoup au niveau des négociations, c'est la gestion de l'offre.
Écoute, je ne sais pas. On sait toujours que la gestion de l'offre, ça fait partie des éléments, les géants du web, la taxe sur le numérique, même les banques. J'ai déjà entendu le président américain dire que, bon, les banques américaines n'avaient pas assez accès, par exemple, au marché canadien. On sait qu'il y a énormément d'éléments, mais le problème actuellement, c'est qu'on ne sait même pas s'il y a des négociations et où on en est rendu. Puis encore une fois, je me répète, mais on se dit qu'on regarde le Mexique, on se dit que le Mexique, puis tu te dis, attendez un instant là, entre la relation Canada-États-Unis puis la relation États-Unis-Mexique, tu te dirais, ce serait plus facile de s'entendre avec le Canada que, par exemple, avec le Mexique,
on s'entend,
des enjeux qui sont beaucoup plus graves.
Oui, on avait l'impression qu'on avait une bonne longueur d'avance sur le Mexique. Clairement, Mark Carney était supposé être l'homme de la situation. Vraiment, on n'est vraiment pas là.
Écoute, pour l'instant, on va le voir. On a appris là, cette semaine que Mark Carney a changé un tout petit peu son équipe. Il y a son chef de cabinet adjoint parce qu'on sait qu'il va avoir des élections partielles. On sait qu'il va avoir, je pense, c'est 6 ou 7 élections partielles, dont une en Colombie-Britannique. Ça va être son chef de cabinet adjoint qui va se présenter en Colombie-Britannique. Donc, il a aussi fait quelques petits changements à l'interne, mais les deux Québécois restent quand même le numéro 1 et le numéro 2, soit Michael Sebia, qui est à la tête de la fonction publique. On connaît Michael Sebia parce que c'est l'ancien président d'Hydro-Québec et l'ancien président de la Caisse de dépôt et placement, et aussi Marc-André Blanchard, qui est son chef de cabinet politique. Donc, ces deux piliers, on va dire, Québécois restent, mais il y a des changements qui sont en train d'être faits normalement dans l'entourage de M. Carney. Parce qu'il y en a au moins un qui va briguer des suffrages. Et un autre, il ne faut pas l'oublier, Tom Pitfield, son secrétaire personnel, qui a été nommé au Sénat.
Et Mark Carney, qui est allé quand même, qui a réussi à aller se chercher une partielle ici au Québec en faisant un deal avec Richard Martel.
Exactement, parce qu'avec la nomination, on parle beaucoup de Richard Martel, il y avait la nomination de Tom Pitfield, donc il va avoir comme ça aussi une élection. Et il faut le dire, la marge était très, très faible la dernière fois pour M. Martel. Il avait gagné, je pense, avec 2-3 points de différence par rapport aux libéraux et au bloc. Et il faut le dire, en politique, lorsqu'il y a une élection et que le candidat gagne à moins de 2-3%, c'est beaucoup, beaucoup la notoriété et la personnalité du candidat qui font la différence. Richard Martel, très connu dans sa région, ça va être difficile pour les conservateurs, à mon avis, de garder cette circonscription. Et oui, tu as raison, ce serait possible que cette circonscription penche vers les libéraux. On va voir le bloc s'ils vont réussir à avoir comme ça une lutte serrée.
Ah, c'est encore un coup dans les genoux du Parti conservateur du Canada et de Pierre Poilievre, malheureusement.
Oui, non, tout à fait. Non, ça, c'est pour ça, je te dis. Moi, je dis, il a fait une pierre, il a fait 3 coups, M. Carney.
Oui.
Parce que oui, il attaque comme ça, ça affaiblit encore le leadership de M. Poilievre. On se pose encore la question, est-ce qu'il y en aura d'autres, etc., comme d'habitude, la fameuse transfuge. Deux, c'est un comté qu'il peut comme ça conserver, qu'il peut gagner, je veux dire. Donc, c'est intéressant pour M. Carney. Mais bon, bien évidemment aussi, on va voir, est-ce que M. Martel, quand il va être au Sénat, va décider de joindre le caucus conservateur? Ça, c'est une question que pour l'instant, il a dit qu'il sera indépendant. On va voir.
À suivre. Rodolphe Fosnier, stratège politique, est-ce que tu prends des vacances cet été ou tu seras toujours disponible?
Écoute, je suis jamais loin. Honnêtement, je continue à suivre parce que si je prends des vacances, après, je vais rater 2-3 trucs. Alors, je continue à toujours suivre un peu l'actualité pour être prêt pour nous et la campagne électorale et surtout pour être prêt quand on reprend la saison.
Comme le dit si bien Pierre Couture, Rodolphe, vous êtes salué.
À bientôt. Merci. Merci, Québec.
Bye-bye. Rodolphe Fosnier, qui est stratège politique, qui a été... D'ailleurs, aux côtés de Stephen Harper, à l'époque où il était à la tête du Parti conservateur.
Oui, monsieur.
Louis, ça coûte cher, la vie. Hein?
Beaucoup.
Puis au Québec, quand tu travailles, et que tu gagnes un peu d'argent, mais tu l'envoies en grande partie au gouvernement.
Qui,
et
là, bien sûr, nous la redonne, hein, sous forme de bons services.
Moi, je veux pas qu'il m'en donne, je veux qu'il m'en laisse dans mes poches.
Ouais.
OK? Je veux garder mon argent. Donne-moi mon argent.
Ouais.
Là, en fait, laisse-moi là dans mes poches.
On va prendre nos routes d'abord.
Et là, je veux qu'on ouvre les lignes au 88-670-9098 après la pause. Parce qu'on apprend que on dit que plus de la moitié des Québécois, donc plus de 50% des Québécois vivent d'une paye à l'autre et savent qu'une bonne partie de la prochaine paye est déjà engloutie par les factures, les dettes, avant même qu'elle soit déposée dans le compte. Fait que déjà, ta prochaine paye est due au complet.
C'est de même pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous.
Je veux savoir comment... Je veux pas nécessairement que vous me disiez votre salaire, mais la question, c'est êtes-vous vraiment d'une paye à l'autre? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que près de la moitié des Québécois seraient à moins de 200$ de l'insolvabilité. C'est-à-dire que si vous manque 200$, vous n'êtes pas capable de faire vos paiements. Je veux savoir comment ça va à ce niveau-là. Est-ce que vraiment vous vivez d'une paye à l'autre? C'est ça la question. Puis, tu sais, vous n'êtes pas obligé de vous nommer. On peut faire ça de façon confidentielle. Vous pouvez le faire par la messagerie. 88-670-9098. Est-ce qu'on a besoin d'avoir plus d'argent dans nos poches? On revient.
Couture. Petite pause. On revient dans pas long.
Dans le mid.
Ouais.
Radio X.